l'origine du festival Sorcière, qui s'est tenu le 20 avril et 19 mai 2022, il y a la volonté de célébrer le centenaire du film Hexan, la sorcellerie à travers les âges, de Benjamin Christensen. Benjamin Christensen est né en 1879 à Viborg, au Danemark. Il a fait des études de médecine à Copenhague, puis est devenu chanteur d'opéra, avant de perdre sa voix suite à une maladie nerveuse. Christensen se met ensuite à la mise en scène de théâtre, puis devient distributeur pour une marque française de champagne en 1907. Plus tard, devenu acteur de cinéma, il décide de passer à la réalisation et de travailler à une trilogie autour de la superstition à travers l'histoire. Il commence par Hexan, mais ne réalisera jamais les deux autres volets. Hexan est le film le plus cher de toute la période du muet scandinavien. Le film de Benjamin Christensen est un objet ambigu et fascinant, et nous avons eu envie d'en discuter avec Elara Berthaud, chargée de recherche au CNRS et qui travaille notamment sur les liens entre histoire et mémoire. Elara commence par nous parler de l'étonnante structure du film et des thèmes qu'il aborde.
C'est un film du cinéaste danois Christensen qui est sorti donc en 1922 et qui est un objet vraiment très étonnant à la fois esthétiquement, stylistiquement et aussi pour ce qu'il décrit. Donc il dénonce de manière très frontale les persécutions contre les sorcières et contre les opprimés en règle générale. Et il a la particularité de frôler à la fois la fiction et la réalité, c'est-à-dire qu'il se présente au départ avec une grande abondance de cartels dans la première partie, où il prétend dire le vrai, raconter une histoire de manière scientifique, avec des sources. Et progressivement, ça devient très fantasmagorique, donc on y reviendra sans doute en détail. Il y a des scènes tout à fait oniriques, de sorcières sur leur balai qui ont des rencontres avec le diable. Et ensuite, il y a une dernière partie qui fait un parallèle avec le contemporain de l'auteur, donc les années 20, où l'auteur, le réalisateur, adresse frontalement, presque voilà, face publique, des parallèles avec l'oppression contemporaine des femmes. Et il me semble que c'est une des premières fois où on fait un lien aussi direct entre imaginaire de l'oppression, donc tout à fait fantasmé, hein, la figure de la sorcière est complètement fantasmée, mais quand même qui raconte une histoire de féminicide si l'on veut, en tout cas d'oppression des femmes, et un équivalent contemporain qui est celui de la mise en asile, les débuts de la psychiatrie et de l'enfermement, qui sont en fait pas sans écho avec ce que Foucault écrira bien plus tard sur les sociétés de l'enfermement, quoi. Et donc, voilà, c'est un film en 7 chapitres formellement, mais qui se découpe en fait en 3 parties. Donc voilà, cette première partie très historique, beaucoup, beaucoup de cartels. Il y a même un cartel où il dit « mes sources principales sont indiquées dans le programme ». Et donc en fait, il y a 70 sources qui ont été données au public. Et donc, il en cite quelques-unes dans des cartels. Et puis, il y a des gravures aussi du 18e qui sont montrées. Donc un côté très historique. Et puis après, toute cette grande séquence onirique et ensuite cette toute petite séquence contemporaine. Donc rien que par sa construction, c'est un film qui est très étonnant et qui mélange un peu les genres. Et du coup, à la réception, c'est un film qui est difficile en fait à recevoir parce qu'on est constamment entre fiction et réel, entre discours qui se prétend historiographique et total fantasmagorie, et puis vrai discours politique engagé sur l'enfermement. Qu'est-ce que c'est l'enfermement? Qu'est-ce que c'est la monstruosité? Qu'est-ce que c'est l'altérité féminine?
Elara nous le disait, la dernière partie du film fait le lien vers le contemporain. Avec plusieurs scènes de tribunaux d'inquisition ou de visions fantasmatiques du sabbat, Christensen filme les établissements psychiatriques où les femmes sont traitées pour hystérie. Il se moque ouvertement des superstitions des époques passées et semble initialement suivre les théories de Charcot sur l'hystérie, avant de dénoncer tout aussi ouvertement les nouvelles persécutions que font subir aux femmes les cliniciens, qui construisent un commerce sur leur enfermement. Nous avons demandé à Elara de nous parler de la posture du réalisateur dans Hexan et de l'engagement de son discours.
je pars du postulat qu'il incarne pour dénoncer. Mais effectivement, ce faisant, en incarnant les fantasmes de la sorcière, donc Aksane, on peut le redire, donc qui veut dire sorcière, en incarnant tous ces fantasmes machistes, en fait, de femmes très sensuelles, donc coupables, ou alors au contraire des femmes très vieilles, avec des corps flétris, qui montrent à l'écran aussi, donc aussi coupables, quelque part la femme est tout le temps coupable, avec des scènes de sabbat qui sont montrées, c'est très ambivalent dans l'incarnation, c'est-à-dire qu'à la fois on est placé en tant que voyeur, en tant que spectateur, donc jouissant de la transgression, de la nudité, du renversement des valeurs, des Christs inversés, donc jouir à la fois de la transgression et en même temps, lui dans les cartels, montre que les femmes ont été victimes. Et donc ce qui est aussi présent dans l'édition Agnès B, c'est une séquence de 8 minutes de 1941 où Christensen est en habit, en blouse, un scientifique, enfin, il s'affirme en tant que scientifique et il est face caméra et il dénonce très frontalement les milliers de meurtres de femmes et la manière dont l'Inquisition a été coupable de meurtres dans toute l'Europe. Donc ça, là, il est très frontal, donc il est très clair. Ensuite, dans tous les cartels qui font le lien avec la dernière partie, entre kleptomanie, schizophrénie et enfermement, et la longue histoire de l'oppression qu'il vient de raconter tout au long du film, on peut que comprendre, me semble-t-il, qu'il est dans le même fil de dénonciation. Après, oui, effectivement, pour se documenter, donc il dit qu'il a écrit ce film entre 1919 et 1921, il a une lecture très éclectique, effectivement, donc à la fois des manuels de démonologie, donc du 15e siècle, donc un qui est très célèbre, qui permet donc de savoir reconnaître les manifestations du démon et de pouvoir les combattre, donc le Maleus Maleficarum qui est très connu. Donc à la fois il incarne ces scènes-là et à la fois en même temps il se nourrit aussi de cette jeune analyse de l'hystérie féminine. Donc Didi Huberman a bien repris autour de Charcot, comment on met en scène les femmes en tant que folles. Et donc il fait ce parallèle et il est un des premiers en fait à faire un parallèle entre la sorcière est une hystérique au Moyen-Âge et l'hystérie contemporaine des années 20. Et donc il me semble pas qu'on puisse faire l'économie de cette séquence de 1941 où il est vraiment très clair dans cette dénonciation. Ensuite, esthétiquement, est-ce que ça marche ? Ça, c'est un autre problème. Et il me semble qu'il y a une ambivalence dans la réception. Par le procédé même de délire onirique, où on sent qu'il y a un plaisir absolu à incarner tous ces fantasmes machistes. Et donc, c'est là qu'elle se joue, en fait, l'ambivalence. Dans son discours, lui, il est assez clair, je trouve, de par l'abondance de cartels, de par cet entretien de 1941. C'est vraiment dans la représentation et toutes ces folies qu'il a pu mettre en scène, où là, effectivement, c'est ambivalent.
Le film montre l'obsession pour le corps féminin, celui de la jeune femme, belle et sensuelle, forcément coupable puisqu'il vous inspire du désir, et celui de la vieille femme, forcément répugnant, dont il faut se débarrasser parce qu'il ne peut plus servir à rien. Comme le dit l'un des cartons du film, il ne fait pas bon être vieille et laide ou jeune et belle. Le film date de 1922, mais résonne bel et bien avec les thèmes des féminismes contemporains.
On ne peut pas s'empêcher de le lire avec nos lunettes contemporaines de féministes et tout ce mouvement de renouveau des études sur les sorcières, les néo-païennes. Et donc effectivement, on a en tête toute cette actualité éditoriale de Mona Chollet autour de la figure de la sorcière, Beauté fatale, et puis Silvia Federici qui a aussi travaillé sur cette figure de la sorcière et de Caliban. Il me semble que c'est tout à fait clair dans son film la manière dont il montre que les corps féminins et les corps nus notamment sont toujours coupables. Et ça, je trouve qu'il est très fort dans la manière dont il le montre. Une des affiches du film, c'est une odalisque, qui est une des figures du sabbat. Donc on y reviendra peut-être, cette scène du sabbat qui est vraiment dingue visuellement, où on voit une jeune femme de dos nue, qui est vraiment une odalisque. Voilà, graphiquement, ça résonne avec toute l'histoire des odalisques du 19e. Le film montre très bien ce mécanisme de comment la femme fatale est une femme coupable. De la même manière, la Tisserande, qui est accusée d'être une sorcière dans toute la partie intermédiaire, là, qui est accusée d'avoir tué le père de famille, Maria, donc cette vieille femme, elle est aussi mise à nu, mais alors différemment. Elle est mise à nu dans le processus d'inquisition et de recherche de l'aveu. Et donc on voit ses cheveux défaits, on voit les seins flétris, on voit en fait un corps qu'on voit rarement à l'écran, qui est en 1922 assez précurseur. Et cette femme-là est aussi coupable. Coupable parce qu'elle ne correspond plus au canon de beauté, coupable parce qu'elle a une féminité qui est étrange. Ça correspond tout à fait à ce que peuvent dire des femmes comme Mona Chollet, par exemple, sur le corps féminin, dès lors qu'il est trop beau ou dès lors qu'il est trop en dehors des canons, ne correspond plus à l'imaginaire hétéronormé, masculin, male gaze, quoi.
Parmi les analyses féministes des épisodes de Chasse aux sorcières, il y a celle de Silvia Federici. Dans Caliban et la sorcière, la chercheuse en sciences sociales livre une analyse détaillée de la transformation du corps des femmes en une machine de reproduction de la force de travail et pallie ainsi l'absence des femmes dans les analyses marxistes de l'histoire du prolétariat. Là encore, un lien se tisse avec le film de Christensen.
Dans Caliban et la sorcière, donc, le sous-titre est très clair, c'est « Femmes, corps et accumulation primitive ». Donc elle, ce qu'elle veut montrer, c'est que le capitalisme se fonde sur deux impensées, qui sont donc l'impensée Caliban, c'est-à-dire l'impensée de la colonisation et de la traite surtout, donc l'usage du corps noir dans la... et donc en fait l'impensée coloniale de la technique. C'est-à-dire, la technique n'émerge pas de nulle part, elle émerge de corps exploités qui sont les corps noirs. Et d'un autre impensé, qui est un autre usage des corps, qui est l'utérus et la reproduction du travailleur. Donc le premier outil de l'accumulation, c'est l'utérus, la reproduction du travailleur comme travail en fait à part entière, gratuit, hein, jamais rémunéré. Donc en fait c'est ce lien qu'elle fait entre Caliban et la sorcière, qui sont deux figures qui lui sèment de métaphores en fait pour penser l'émergence du capitalisme. Bon, elle a été contestée effectivement dans des approximations, mais moi ce que je trouve fulgurant, c'est ce lien qu'elle fait entre les deux, et parfois des formules qui sont très belles, je trouve. Elle dit par exemple, l'utérus est un champ de bataille public. Bon, en fait, Christensen le montre aussi, ça. L'utérus est un champ de bataille de l'Inquisition, des rapports interpersonnels, plein de scènes où il montre comment les femmes sont systématiquement suspectées. À la mort du personnage de Jasper, qui est celui qui décède, qui est un riche marchand qui décède. Donc autour d'elle, il y a trois femmes éplorées et il y a une femme pauvre qui tourne autour d'un chaudron et c'est elle qui est accusée. Et ensuite... Dans cette scène, on voit une accumulation de dénonciations. Donc, une des jeunes femmes va se plaindre au prêtre. Et donc, en fait, elle est trop belle. Donc, du coup, elle est aussi suspecte. Et donc, de fil en aiguille, les femmes se dénoncent entre elles. Et donc, en fait, on montre comment c'est toujours les opprimés. Enfin, effectivement, c'est toujours les subalternes qui sont coupables, quoi. Donc, la pauvre et puis ensuite les femmes, riches ou pas, d'ailleurs. Federici montre aussi comment toute cette dévalorisation des connaissances féminines sont concomitantes de la montée en scientificité des apothicaires, des médecins, de la manière dont les hommes s'arrogent la connaissance scientifique du monde, qui n'est pas la connaissance des herbes, car elle n'est pas scientifique. Du coup, ça se mord la queue, quoi. Voilà, donc se réapproprier l'histoire des plantes, se réapproprier l'histoire du chaudron, c'est des présupposés qui sont féministes et qui sont en fait incarnés dans le film, enfin mis en image, quoi.
Ixen a parfois été qualifié de premier docu-fiction, parfois de premier film d'horreur. Et Lara revient pour nous sur le mélange des genres qu'opère Benjamin Christensen.
On a l'impression qu'il est très didactique, historique, qui permet de retracer fidèlement, en fait, si l'on peut dire, les mécanismes d'inquisition, un peu comme si c'était un petit Carlo Ginzburg illustré. Sauf qu'en fait, ça, c'est une partie du film. Il y a aussi toute une autre partie qui est un délire iconographique avec tous les moyens de l'époque, donc des fondus enchaînés, des caches en couleurs, donc il y a des images toutes bleues ou alors au contraire toutes rouges pour montrer l'enfer avec de la fausse fumée. Donc ça, c'est aussi un autre aspect du film qui décale le propos par rapport à l'imaginaire féministe dont on parlait à l'instant et qui là, il me semble, est intéressant aussi parce qu'il fait basculer le film dans un univers qui est totalement autre et qui est plein d'inventions, termes d'histoire du cinéma. Et je trouve aussi qu'il permet de dégonfler en fait les imaginaires machistes. C'est-à-dire que montrer une femme baisant le cul du diable, ce qui est une des grandes scènes d'anthologie du film, ça permet de retranscrire les aveux de la femme qui est en train de subir la torture. Et en fait, donc du coup, par fondu, on s'imagine les prêtres en train d'imaginer ce que ça pouvait être le sabbat. Et en même temps, l'incarner, c'est incroyablement drôle. Et ça permet de dégonfler aussi toute cette horreur de la mise à l'épreuve de ces femmes. Effectivement, il a une grande aura aussi dans l'histoire des films d'horreur. C'est-à-dire que sans doute que l'exorciste doit beaucoup en fait à cette figure de femmes qui ont été battues et qui apparaissent le visage tuméfié à l'écran. Bien sûr que ça fait penser aujourd'hui effectivement à tout cet imaginaire post-exorciste. Donc effectivement, en tant que film d'horreur, il a eu un certain succès et il a participé à construire un canon esthétique. Et en même temps, c'est pas du tout que ça. Et un critique, un historien, Adrien Genoudet, plaide pour ranger ce film dans la catégorie des films prétendant écrire l'histoire. Donc en fait, vraiment de l'historiographie en tant que telle. C'est-à-dire qu'il arrive en tant qu'historien disant « je vais vous raconter l'histoire et cette histoire est vraie car j'ai des sources ». Qui est en fait le pacte de début avec les cartels.
L'extrait qui va suivre est issu de l'article « Aksan, le devenir historien du cinéaste » d'Adrien Genoudet, écrivain, cinéaste et chercheur en histoire visuelle.
En ces années 1910, sollicitant l'aide d'historiens, Christensen se voit refuser de toutes parts, le cinéma étant encore largement marqué par le discrédit forain. Benjamin Christensen décide d'écrire seul son film, de faire ses propres recherches et de réaliser, par le médium cinématographique, dont il perçoit toutes les potentialités didactiques, son ouvrage d'histoire en 7 chapitres. Christensen est sans doute le premier réalisateur à utiliser le cinéma pour écrire de l'histoire. Il impose à son spectateur son point de vue de cinéaste historien et est bien déterminé à prouver sa posture auctoriale. Le premier plan du film est un gros plan de Christensen lui-même, le regard inquisiteur fixant fermement et intensivement le spectateur. Un plan qui est surprenant, audacieux dans les années 20. Il s'agit d'un regard caméra avoué et revendiqué, et extrêmement difficile à interpréter. Ce portrait, apparaissant en iris, se donne à voir comme une sorte de signature visuelle où le cinéaste se montre au spectateur et où, par cette intensité du regard, il vient peut-être assumer justement un regard sur l'histoire, un point de vue subjectif et individuel. Christensen, dans cet unique plan, s'érige en tant qu'auteur dans tous les sens du terme. Il brandit une subjectivité, un « je » dans l'écriture de l'histoire quand les historiens classiques attendront les premiers textes d'égo-histoire pour oser assumer leur perception d'individus contemporains.
Ce film, qui est son chef-d'œuvre, hein, qui est le plus connu, s'insère dans une histoire où il a un côté très Kafka. Enfin, il est tout à fait intéressé par les mécanismes d'oppression et d'accusations qui ne viennent de nulle part. Il a notamment fait deux autres films, en 1914 Mystérieux X et en 1916 La justice aveugle. Et en fait, les deux racontent comment des hommes sont accusés à tort de meurtre. Et donc, c'est le rapport à l'institution, c'est le rapport de l'homme à l'institution. Et donc, bien sûr, Aksane, c'est des femmes et plus des hommes, mais en fait, on retrouve un peu un mécanisme kafkaïen d'une accusation qui vient de nulle part, d'une rumeur. Et d'une force de l'institution, et c'est vraiment ça qu'il permet de montrer. Ce film montre l'institution implacable en train de mener à bien une justice complètement désincarnée, en fait.
Le film a connu différents montages et orchestrations successifs. Ces versions alternatives permettent de mettre en exergue des aspects de cette œuvre foisonnante ou de porter sur elle un regard contemporain, à travers notamment la dernière orchestration électronique, qui est celle que nous avons projetée à Paris 8 sur les conseils de Teresa Castro, maîtresse de conférences en études cinématographiques à Paris 3, qui a présenté le film au public lors du Festival Sorcières. Et Lara Berthaud revient pour nous sur une version de 1968, avec une bande sonore jazz et une voix off de William Burroughs.
Dans la deuxième version, qui est plus courte, celle jazz avec Burroughs, on voit comment il porte davantage l'accent sur les violences policières et sur le rapport au contemporain. Et donc ce rapport à l'institution dont on parlait à l'instant, il est très présent, vraiment presque plus présent. Enfin, en tout cas, il y a une autre couche de signification qui vient se surimposer. Et il fait des petits commentaires. Donc, par exemple, il y a une scène où la vieille femme est accusée à tort de sorcellerie, donc Maria, là, la tisserande. Et la voix off rajoute, on reconnaît là la vieille technique des policiers de tous les pays, good cop, bad cop. Il montre comment il y a des parallèles avec les violences policières états-uniennes. Et lui-même vient d'un contexte où, bien sûr, il devait sans doute connaître les sorcières de Salem. Il y avait aussi cet imaginaire littéraire, et théâtral et puis aussi cinématographique. Mais il y a aussi, je pense, un vrai imaginaire militant qui est là. Et donc, à toutes les époques, ce film a été sans cesse recontemporanéisé parce qu'il appelle à ça, en fait, dans la dénonciation des systèmes d'oppression et des institutions et des mécanismes par lesquels l'institution se relégitime sans cesse. C'est des mécanismes qu'on ne peut que reconstater dans le contemporain. Et donc effectivement, Burroughs en 1967 et 68, et puis nous encore aujourd'hui. Féministes contemporaines ont fait des liens qu'on a en tête, hein, donc on a ces filtres-là très féministes, de l'oppression continuée des femmes. Foucault nous aide aussi à penser donc, toute cette dernière scène, pas seulement de manière féministe, mais la manière dont on traite les fous, la maladie mentale, comment on considère l'enfermement. De manière générale, les déviances. Donc effectivement, sous le chapeau sorcière, toute la dernière partie invite à y lire derrière cette figure, comme en Matryoshka, plein d'autres figures secondaires. L'aliénée, femme ou pas, le déviant, femme ou pas, les pauvres, les marginaux au sens large. On peut lire ça comme ça aujourd'hui, et puis comme on voit une réaction très franche hein, aujourd'hui, des mises en accusation de l'université très récentes et très frontales, des dévalorisations des études de genre, des études postcoloniales, décoloniales. Aujourd'hui, effectivement, travailler sur ces objets, reste extrêmement subversif.
Cette émission a été réalisée par la Bibliothèque universitaire et le service communication de l'Université Paris 8. L'entretien avec Elara Berthaud a été enregistré à Studio 8. Merci à Elara de nous avoir partagé ses analyses sur Rexane. Le DVD du film, dans sa très belle édition par Potemkin Film, est consultable sur place et empruntable à la Bibliothèque universitaire de Paris 8. Merci à Raphaël Fortozo d'avoir lu l'extrait de l'article d'Adrien Genoudet.